Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 en France, midi 08 au Qatar. On est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Les grandes gueules du sport ce matin. Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Stephen Brun, Simon Dutin. Dans quelques instants, conférence de presse d'Hugo Lloris et de Didier Deschamps en direct sur RMC à la veille d'affronter la Pologne. 10h30, une parenthèse dans cette émission Coupe du Monde. Un homme en colère, Pierre Amiche. Je veux revenir sur le drame de la semaine en cyclisme et la mort de David Erebellin. Et puis 11h, le bras de fer des GG sur l'émotion et la pression invraisemblable autour de l'Argentine. Il y aura une team, c'est fascinant. Une team, c'est terrifiant. Allez, tout de suite, direction Doha, avec la conférence de presse d'Hugo Lloris.
Sur le scénario du match, ne rien lâcher, ne pas laisser espérer l'adversaire. Mais pour ça, voilà, c'est également... dans la préparation mentale du match, de se dire, quel que soit le scénario, il faut réaliser un match plein et lorsqu'on a l'opportunité, il faut être tueur et faire mal à l'adversaire.
Hugo Lloris donc en conférence de presse en direct sur RMC dans les grandes gueules du sport. Rendez-vous compte, les GG, les auditeurs. 142 sélections demain pour Hugo Lloris. Il égale Lilian Thuram, mais on espère pour lui et pour notre équipe de France qu'il arrivera à le battre pour le quart de finale. Hugo Lloris, la conférence de presse.
Direct. Il y a une possibilité qui se joue au tir au but. Est-ce que vous travaillez, vous, ce type d'exercice? À l'Euro, vous aviez été éliminé dans ce domaine. Est-ce qu'il y a un moyen de s'améliorer ou c'est vraiment une loterie, comme on a l'habitude de dire?
Oui, on peut. Aujourd'hui, avec bien sûr les analystes, on a tous les éléments. Mais on se rend compte que il y a une part d'aléatoire, dans le sens où les tireurs sont capables de frapper n'importe où. Même si on peut trouver parfois quelques indications, on peut mettre quelque chose en place lors d'une séance de tir au but et il peut se passer tout le contraire sur le moment. Donc je crois qu'il y a peut-être une part de préparation, mais également une part d'instinct, de feeling sur le moment. Et je crois que le gardien doit se faire confiance à ce moment-là. Après, si le pénalty est bien tiré, ça laisse moins de chance au gardien de l'arrêter. Mais après, y a des gardiens qui excellent davantage que d'autres. Ils ont certainement leur petit secret. Mais je crois que, bon, avant d'en arriver là, il y a assez de temps pour faire la différence. Et si on doit passer par là, ben, il faudra se surpasser, les tireurs et le gardien.
Hugo Lloris en direct sur RMC pour la conférence de presse d'avant-match. Veille de huitième de finale pour notre équipe de France face à la Pologne. Le début des huitièmes de finale, c'est donc aujourd'hui avec Pays-Bas, États-Unis. C'est à 16h. Argentine, Australie à 20h. Et puis demain, France-Pologne, évidemment, 16h. Angleterre, Sénégal à 20h. C'était la fin de la conférence de presse d'Hugo Lloris. Vous l'avez entendu quelques instants. Didier Deschamps, le sélectionneur, arrive pour sa conférence de presse. Je vous donne, mes GG et vous, chers auditeurs, les autres huitièmes de finale à partir de lundi à 16h, Japon-Croatie, 20h, Brésil-Corée du Sud, et puis le mardi pour la fin de ces huitièmes de finale, 16h, Maroc-Espagne, Portugal-Suisse à 20h. Didier Deschamps pour la conférence de presse avant le match face à la Pologne, les grandes gueules du sport.
Bonjour Didier.
Bonjour.
C'est votre cinquième phase finale. Qu'est-ce qui fait pencher la balance dans les matchs à élimination directe selon vous? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi?
Écoutez, évidemment, c'est une autre compétition qui commence avec qui n'est pas la même que la première où on a trois matchs sûrs. Là, il y en a un. Et de faire en sorte pour qu'il y en ait un autre derrière, ça passe par... évidemment, ce match-là, donc voilà, c'est des matchs couperés pour toutes les équipes qui sont qualifiées, et c'est le cas comme la Pologne et nous, un huitième de finale qui est déjà quelque chose de faire partie des 16 équipes par rapport aux 32 qui étaient là. C'est une gestion, mais en sachant que bon, voilà, il y a moins à gérer et aller au bout pour aller atteindre notre objectif, c'est d'avoir notre place en quart de finale.
Conférence de presse de Didier Deschamps en direct dans les grandes gueules du sport.
Juste... Pour la réponse catastrophique.
Oui, Stéphane.
Il a rien dit, en fait.
Non.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise?
Ah, je sais pas, un mode d'emploi. Il a quand même connu 5 phases finales de Coupe du Monde.
Il nous parle un petit peu des ressorts psychologiques, la prévention avant un match au coup près. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a envoyé des banalités.
Bah, attendez, on y retourne. On va voir pour la deuxième question et la deuxième réponse.
Est-ce que c'est quelque chose que vous allez convoquer auprès de vos joueurs? Et plus généralement, est-ce que vous leur parlez un petit peu plus avant les matchs couperés aux joueurs, au groupe? Ou est-ce que vous essayez de prolonger une certaine routine auprès d'eux?
C'est ni l'un ni l'autre. Écoutez, après, parler du passé, en plus d'un passé aussi positif que celui-là, je vois pas l'intérêt. Quoi. Si ce n'est que les joueurs qui étaient présents à ce moment-là, ben les sensations qu'ils ont eues, ils n'ont pas envie de les revivre, bien évidemment. C'est un autre, le seul point commun, c'est qu'un huitième de finale. Ça, c'est sûr. Après, c'est pas le même adversaire. Je vais pas, je tombe pas dans une routine. Je vais pas en rajouter non plus, parce que si j'en rajoute, ça peut amener ce que je veux pas. C'est-à-dire, peut-être un peu plus de stress. C'est avoir notre tranquillité, notre sérénité, mais en sachant, que voilà, il y a une place en quart de finale. Et je regarde beaucoup, pas tous du début à la fin, les matchs de poule qui ont eu lieu. Il n'y a pas de match facile pour personne. Et un huitième de finale où les 16 meilleures équipes, que l'on veuille ou pas, sur le papier ou pas, c'est les 16 meilleures qui sont là parce qu'elles l'ont mérité. Donc forcément, le niveau de difficulté augmente. Donc de notre côté, évidemment, les exigences doivent être encore plus élevées pour atteindre notre objectif.
Convaincu, Stéphane Brun, par cette deuxième réponse de Didier Deschamps?
Après, pas convaincu par la question. Donc, forcément, la réponse, elle est au niveau de la question. Après, les journalistes, je suis d'accord avec eux, ils ont besoin, ils ont des thématiques pour faire leur papier sur certains thèmes. Mais je sais pas.
Non, il y a quand même une réponse qui est intéressante.
C'est quoi?
Quand il dit qu'en fait, la préparation, elle va pas être différente.
Ouais. Il veut pas leur mettre plus de stress.
Exactement,
surtout
exactement.
Ne pas
et un sportif fonctionne à l'habitude. Ouais, donc, c'est reproduire exactement les mêmes types de préparation.
Mais on le sait, Sarah, on change pas tout parce que c'est un match.
Oui, mais la question est posée. Il faut bien qu'il réponde quelque chose qui est vrai.
Oui, mais qu'ils nous disent s'il y a des crudités, du poulet pâte.
Il y en a.
Question maintenant sur le record du Golioris. Didier Deschamps en direct.
Et la valeur très symbolique que signifierait le match de demain pour lui. L'équipe de France est plus importante avec son objectif, mais pour lui, comme c'est, puisqu'il va égaler Tutu, que j'ai bien connu, voilà, c'est. Les records, ils sont tous faits pour être battus à un moment ou un autre. Là, c'est une longévité de deux joueurs exemplaires, de grands professionnels qui se sont maintenus l'un et l'autre. Bon, il y en a un qui est actif encore, l'autre ne l'est plus, mais au très très haut niveau. Donc évidemment, c'est pas tous les records ont une signification. Il y en a peut-être certains qui sont un peu plus anodins que d'autres. Celui-là, il est parlant de par le nombre de sélections que ça représente sur des années au plus haut niveau.
Lilian Thuram, recordman de sélection avec 142 jusqu'à demain, car il va être rejoint par Hugo Lloris avec également 142 sélections. Didier Deschamps en direct sur RMC dans les grandes gueules du sport. À partir de 10h30, on ouvrira une parenthèse omnisport avec notamment le drame, la mort de David Rebellin, le cycliste. Et puis on vous donnera aussi quelques informations. Et puis à partir de 11h, on parlera de l'Argentine. Didier Deschamps toujours en direct à la veille d'affronter la Pologne.
Tous les matchs sont difficiles. Ceux d'hier soir aussi, ça pouvait basculer dans un sens ou dans l'autre. Voilà, et les adversaires, quels qu'ils soient, ils sont là. Et même s'ils ne jouent pas la qualification, bah, le fait de pouvoir gagner des matchs, voilà. Alors après, il y a des équipes qui peuvent se permettre, comme ça a été notre cas, de gérer, comme ça a été le cas aussi hier. Et donc, qui amène un peu plus d'incertitude. Maintenant, est-ce qu'il va avoir des surprises? Tout dépendra des rencontres aussi. Toutes les équipes aujourd'hui sont très bien préparées, avec tout ce qui est analyse et tout ça aussi. Et puis les joueurs, peu importe les nations, jouent dans de très bons championnats, dans de bonnes équipes. Ils sont habitués. Alors avec certaines nations qui ont une ferveur populaire qui est peut-être un peu plus importante parce qu'il y a une présence locale qui est plus forte pour certains pays que d'autres et qui amène, comme ça a été le cas contre nous avec la Tunisie, avec des joueurs qui sont survoltés par rapport au fait de jouer et de gagner ce match-là. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Moi, je suis comme Saint Thomas. Je crois ce que je vois, donc je suis pas là pour prédire. Mais toutes les équipes doivent être prêtes. Et comme ça a été le cas, mais déjà par rapport à la première Coupe du Monde que j'ai fait en tant que sélectionneur en 2014 au Brésil, il n'y a plus ce qui était possible avant d'une nation qui disait oui, elle va monter en puissance. Aujourd'hui, même une grande nation, si elle n'est pas prête au premier match de poule, et il y en a certains, ce qui ne veut pas dire que toutes les équipes, et l'Argentine en fait partie, a perdu le premier match et ne s'est pas qualifié, mais vous pouvez aller à de désagréables situations.
Didier Deschamps qui parle de pression populaire, sachez qu'on en parlera à partir de 11h. Est-ce que c'est terrifiant? Est-ce que c'est fascinant, la pression autour de l'Argentine? Conférence de presse en direct dans les grandes gueules du sport de Didier Deschamps à la veille d'affronter la Pologne en 8e de finale, toujours avec Christophe Cessieux, Simon Dutin, Stephen Brun et Sarah Pitkowski. On revient juste après, évidemment, la conférence de presse. Didier Deschamps.
Non, c'est pas... Cette équipe de Pologne a été amenée sur les trois matchs qu'elle a eu à faire en poule à défendre, à beaucoup défendre. Et elle défend très bien, et je dirais même qu'elle elle aime ça, même elle adore ça. Mais c'est pas la limiter qu'à ça, de part déjà les joueurs, et vous les connaissez aussi bien que moi, dans le secteur offensif. C'est une équipe compétitive parce qu'elle a un noyau dur de joueurs qui ont une bonne expérience internationale, qui ont déjà participé à plusieurs compétitions, qui ont un nombre de sélections pas loin des 100 ou au-dessus des 100. Évidemment, il y a Chesney, Glick, Lewandowski, Krikoviak, Zelinski, Grosicki, je ne vais pas tous les citer, et puis quelques jeunes qui découvrent et qui sont plutôt à la hauteur sur ce début de compétition. Donc, je ne sais pas, méfiance, il faut respecter ce que fait et ce qu'a fait cette équipe de Pologne et qui mérite d'être là en huitième de finale. Évidemment, avec Chesney qui a été décisif pour elle, mais le scénario du match, je sais, mes joueurs savent que dans la négation, y a du répondant. Ça ne fait pas gagner les matchs, mais ils ont aussi beaucoup d'arguments offensifs pour créer des problèmes à l'adversaire.
On en parlera d'ailleurs demain de Chesney, le gardien polonais qui a déclaré l'arme pour arrêter Mbappé. Moi-même, est-ce qu'il prend des risques avec cette phrase, surtout quand on connaît évidemment le talent et l'abnégation et l'envie de faire fermer des bouches de Kylian Mbappé? On se posera la question dans les grandes gueules du sport. La conférence de presse de Didier Deschamps et puis après un petit débrief avec nos GG, évidemment. Didier Deschamps, direct de Doha.
Ces deux attaquants.
Les deux seront présents après, si vous... Je vous laisse... libre de comparer si vous voulez comparer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ces deux attaquants qui font partie des tout meilleurs sur le plan mondial, avec des qualités différentes, mais bon, pas le même âge non plus, pas le même registre, mais évidemment que l'un et l'autre, que ce soit Kylian pour nous ou Lewandowski pour la Pologne, sont deux éléments très importants.
Simon, tu apprends des choses là depuis le début ou pas?
Lewandowski, joueur de classe mondiale, ouais. Mbappé également, pas le même registre, bon joueur, méfiance. Hein.
Attention, moi j'ai appris qu'ils n'avaient pas le même âge. Ouais. J'ai appris qu'ils n'avaient pas le même âge, c'est important. Moi, je pense
pas la même génération, mais méfiance, moi je recommande de se méfier de Robert Lewandowski demain.
Vous êtes taquin avec cette conférence de presse de Didier Deschamps qui doit répondre à une question en polonais dans quelques instants. Oui, mais je trouve que c'est important pour tâter l'humeur déjà de notre sélectionneur et puis pour avoir les derniers mots parce que on n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas dans le groupe et on a envie de savoir.
Parce que s'il est en train de te donner, tu penses que c'est ce qui se passe dans le vestiaire, j'y sais.
En fait, c'est des passages obligés, médiatiques, ouais. Qui malheureusement n'apportent pas grand-chose, mais tu peux pas faire autrement en fait.
Mais ça pourrait donner autre chose. si les journalistes.
Si tu rencontres Luis Enrique, ça te donne pas la même chose. Ça,
mais tout dépend de ce que tu as envie d'en faire de cette conférence de presse. Tu peux arriver, tu as l'impression.
Ça dépend
que,
des caractères de chacun.
Il calcule tous ses mots. Tu vois, à un moment, il dit hier, nous on s'est permis de faire tourner. Hier aussi. Il cite même pas. Tu vois, il a peur que tout soit interprété, toi, contrôlé.
Mais parce qu'il est comme ça, Didier Deschamps.
Ouais, j'ai envie de poser quoi ? Est-ce qu'il pense qu'il a perdu ses remplaçants ?
Ça, c'était la question de 9h. Voilà. Allez-y, vous pouvez aller
en passé avec Benjamin Pavard ? Et où en êtes-vous tous les deux ? Est-ce que vous lui en voulez pour quelque chose ? Je sais pas, il y a des questions qu'on a envie de...
T'as envie, sincèrement, tu crois qu'il y en a...
Mais évidemment qu'il ne te répondra pas.
D'accord, mais tu crois qu'il y en a un, là, dans l'Assemblée, des journalistes français, qui va oser poser la question sur Benjamin Pavard ?
À un moment donné, il va se faire repérer. Sarah, poser la question Karim Benzema est guéri, peut-il revenir en demi-finale ?
Ça a été posé avant le match face à la Tunisie et il a répondu dans un souffle. Je sais pas d'où ça sort ça. Je sais pas pourquoi vous parlez de ça. Moi, je m'occupe que des joueurs. Je précise quand même pour les auditeurs, si jamais ce n'était pas une blague, mon cher Stephen, il a dit non mais.
Non mais je sais pas parler avec lui de football. Ça m'intéresse pas. Parler avec lui de football, de ce qu'il a vu, ce qu'il a trouvé d'intéressant dans ce tournoi, s'il y a des équipes qui l'ont plu, des trucs, parler de sport.
À 24 heures du match. T'es à 24 heures du match.
Ouais, on éveille d'un huitième de finale. En vrai, on s'en fout. Et surtout, lui, il s'en fout des réponses. Après sa conférence de presse.
Ou même parle-nous tactique.
L'exercice est totalement inutile.
On rappelle, c'est un exercice imposé. Ils ont des timings. C'est imposé par la FIFA. S'il vient pas, il prend une amende. Il a rien à nous dire.
Il chante une chanson. Il fait un karaoké.
Pourquoi pas? Peut-être un jour. Sauf que tu sais très bien qu'après, nous, on va se nourrir des quelques miettes pendant 24 heures jusqu'au début du match. On va essayer de ressortir des extraits. Deschamps, il n'y a rien à apprendre. On sait à peu près quelle équipe il va mettre. On sait de qui il faut se méfier. Et on sait que si on sort demain, on sera tous dégoûtés. Voilà, point barre.
Ok, les copains, on retourne pour la conférence de presse de Didier Deschamps.
Ce qui a pris beaucoup d'épaisseur durant cette compétition, c'est Adrien Rabiot. Est-ce que vous voyez une différence entre le joueur et l'homme qu'il est dans la vie? Est-ce que ce n'est pas deux visages différents qui nous montrent et qui vous montrent?
Oula. C'est lui? C'est lui sur le terrain, c'est lui sur le plan humain. Je ne découvre pas, il y a un moment qu'il est avec nous, même s'il a eu malheureusement une pause à un moment pour différentes raisons. Mais il est en pleine possession de ses moyens. Il est dans la continuité de ce qu'il fait avec son club depuis plusieurs semaines avant cette Coupe du Monde. Et sur le plan humain, caractère, il est comme il est. Je le connais bien, si ce n'est qu'il a enlevé des choses qui le gênaient à une période, mais il faut remonter bien plus loin où son placement, son positionnement pouvait le limiter déjà psychologiquement. Aujourd'hui, c'est un milieu de terrain complet, que ça soit plus bas, plus haut. Lui, il s'est défini. Je reprends cette formule. Je trouve qu'elle lui colle parfaitement à la peau. C'est un joueur d'équilibre. Mais c'est pas réducteur. C'est pas négatif. Il est capable d'être aussi performant sur le plan défensif et d'amener du danger offensivement. Et il a cette intelligence par rapport aux joueurs qui sont devant, autour de lui. J'ai pas besoin de lui répéter 3-4 fois, parce que lui, il sait, il sent où il doit être. Donc, tant mieux pour nous qu'il soit à ce niveau-là.
Didier Deschamps qui parle d'Adrien Rabiot à la veille d'affronter la Pologne. Et c'est le 8e de finale à suivre sur RMC en direct en intégralité à partir de 16h. Il est 10h27. Vous écoutez les grandes gueules du sport. La conférence de presse de Didier Deschamps va se terminer dans quelques instants. On va reprendre le cours normal des choses dans notre émission des grandes gueules du sport. Toujours avec Christophe Cessieux, Simon Dutin, Stephen Brun et Sarah Pitkowski. Didier Deschamps pour les dernières réponses.
Non. C'est la Pologne.
Ok, je voudrais savoir aussi, pour votre avis, pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, les 5 continents sont présents. Est-ce pour vous, quel est votre avis?
Très bien. J'ai toujours été pour la diversité. C'est que ces équipes-là le méritent et que chaque continent soit représenté. On est en Coupe du Monde, c'est le football mondial, donc... C'est très bien, des fois c'est pas le cas parce que les circonstances ont fait que ça met en lumière le football mondial à travers les continents et ses représentants.
Et voilà pour la conférence de presse de Didier Deschamps, donc à la veille de ce huitième de finale. France-Pologne, on embrasse évidemment notre jeune journaliste Agathe Philippe, qui va devoir,
ça,
qui va devoir évidemment sortir les meilleurs moments de cette conférence de presse.
La dernière question, j'ai bien aimé.
Voilà.
Il demande à Didier Deschamps son avis sur les pays asiatiques, les pays africains qui sont qualifiés. Moi, ça me plaît. Bon, même si la réponse est un peu.
On en reparlera d'ailleurs à 11h30. On aura un reportage sur l'ambiance au Qatar avec les supporters français. On se demandera et je vous demanderai si vous adorez cette Coupe du Monde avec des scénarios de dingue lors des derniers jours. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On embrasse aussi les copains en direct de Doha qui ont permis cette retransmission. Arthur Perrault, Nicolas Pelletier et Fabrice Hawkins. 10h29, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Un homme en colère. Une petite parenthèse dans cette émission Coupe du Monde, le drame avec ce coureur cycliste Davide Rebellin. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33, on est de retour sur RMC, 11h, midi 33 au Qatar. Vous allez suivre évidemment toutes les rencontres et les huitièmes de finale. Ça commence aujourd'hui avec le match à 16h entre les Pays-Bas et les États-Unis et le match à 20h entre l'Argentine et l'Australie. D'ailleurs, on aura un débat, un bras de fer à partir de 11h autour de la sélection argentine et cette émotion, cette pression, parfois même cette tension. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous n'êtes déjà pas d'accord, les GG, et c'est le principe aussi évidemment de cette émotion. Mais vous le savez, comme tous les week-ends, à 10h30, on fait entrer un homme heureux ou en colère, c'est selon.
RMC,
l'homme en colère.
Mais pourquoi est-il aussi méchant ? Pierre Amiche.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Pourquoi en colère aujourd'hui ?
Eh ben cette semaine, je suis en colère. En fait, non, je suis surtout inquiet et sidéré parce que mercredi, on a appris avec tristesse le décès d'une figure du cyclisme, Davide Rebellin, l'Italien qui venait tout juste de mettre un terme à sa carrière la plus longue de l'histoire. Après plus de 30 ans dans le peloton, eh bien, il avait officiellement raccroché le vélo le 28 novembre. Le 30, il perdait la vie percuté par un camion. Courageusement, le conducteur a pris la fuite, laissant Davide Rebellin seul, agonisant. À croire que les cieux n'étaient pas capables d'imaginer un monde où l'Italien ne pédalait plus. Il vivait pour le vélo et il est mort tout près de lui. Rebellin, c'était comme beaucoup de cyclistes des années 2000, les années sombres, un homme aussi brillant que sulfureux, tricheur avéré au milieu de tous les tricheurs anonymes. Certains retiendront de lui le PO, la Gerolsteiner, les années de suspension, et d'autres préféreront se souvenir d'un coureur exceptionnel, éclaboussant l'année 2004, vainqueur de l'Amstel, la Flèche et Liège, le tout en une semaine et à 33 ans. Un exploit que même Eddy Merckx n'avait pas réalisé. Vainqueur de Tirreno Adriatico, de Paris-Nice, équipier exemplaire pour les sacres mondiaux de Balane et Bettini. Et puis le Véronais gâche tout en 2008, contrôlé positif pendant les Jeux. Je reconnais que la mort rend tout très beau, même les chaudières. Rebellin, moitié super-héros, moitié super-vilain, n'aura donc pas pu profiter de la vie sans vélo. C'est un drame, évidemment, parce que mourir à 51 ans reste une anomalie. Le problème, c'est que ce drame s'ajoute à une longue liste de drames. En moins de 10 ans, Michel Escarponi, Romain Guyot, Chris-Anker Sørensen, Christophe Goddard, Victor Cadebo, tous ont perdu la vie à l'entraînement. À cela s'ajoutent Antoine Demoitier, Thomas Cazzarotto et Steph Loss, tous morts en course des suites d'un accident avec un véhicule suiveur. Et là, ce ne sont que les décès qui ont émaillé l'actualité du 21e siècle. Dans l'histoire, ils sont des centaines, peut-être plus, de Jean-Pierre Montséré à Camille Dan-Guillaume. Et puis, il y a tous ceux qui ont frôlé la mort juste parce qu'ils roulaient à bicyclette. Egan Bernal, fracture multiple, opération de la colonne vertébrale et coma. John Degenkolb, percuté par une voiture qui fauche six coureurs d'un coup, il manque de perdre une main. Thomas De Gendt qui dit « Mon casque m'a sauvé la vie ». Éric Le Blacher qui déclare « Je vois ses feux stop s'allumer, puis il repart en me laissant pour mort ». Thomas Vauclair, ça aurait pu être dramatique. Bradley Wiggins, Londres c'est vrai est une ville dangereuse. Warren Barguil, on aurait pu tous y passer. Froome, j'ai été percuté volontairement, il m'a suivi sur le trottoir. Max Walscheid, la voiture a tourné et m'a foncé dessus. Et là, on ne parle que des coureurs professionnels. En 2021, en France, 227 cyclistes ont perdu la vie. C'est la première fois depuis 20 ans que le bilan dépasse les 200 décès annuels. Alors oui, je sais, les cyclistes ont parfois des comportements insupportables, dangereux, irresponsables. Oui, c'est vrai, mais eux n'ont pas de carénage. Si tu fais une connerie en bagnole à 30 à l'heure, c'est de la tôle froissée. En vélo, eh bien, c'est peut-être la fin du parcours et le décès. L'explosion du déplacement à vélo pousse une prise de conscience. La cohabitation est non seulement souhaitable, mais inévitable. Et je ne veux pas avoir peur quand Christophe Cessieux prend son vélo. Je sais qu'en tant que pourfendeur des évidences, bien caché derrière mon micro, tout paraît facile. Mais vous trompez pas de message. J'ai rien contre la mort, ça arrive à des gens très bien. Mais j'ai Je ne veux plus de cette idée et je ne veux pas risquer, moi, de me faire plomber la tronche quand je vais aux champignons, de me faire écraser quand je prends une bicyclette. Staline, qui était pas vraiment cycliste et pas vraiment amateur de Mori, déclarait « La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million est une statistique. Le pire, maintenant, serait que Tintin ne soit qu'un mort de plus, un chiffre, une stat parmi les autres. » Davide Rebellin rejoint au panthéon du cyclisme italien les autres champions partis trop tôt, Pantani, Coppi, Scarponi, espérant que là-haut, le dieu du vélo soit magnanime et surtout qu'il parle un peu italien.
Au soleil vont mûrir.
Cet homme en colère de Pierre Amiche autour du drame de Davide Rebellin. Vous allez pouvoir évidemment nous dire ce que vous en pensez. Déjà rebondir au papier de Pierre. On fait une petite parenthèse hors Coupe du Monde dans cette émission car c'est l'une des actualités de la semaine. Toi, Christophe, qui a suivi évidemment les exploits, pas que, de Davide Rebellin, coureur fantastique, coureur avec une longévité incroyable. Il a continué le cyclisme professionnel jusqu'à plus de 50 ans. C'est inédit et tragique destin. Il arrête et quelques jours plus tard,
il arrête sa carrière professionnelle, mais il continue de faire du vélo parce qu'il avait le vélo ancré au fond de lui. Ce mec-là, à 40 ans, a dit « qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'arrête ma carrière professionnelle, j'arrête le haut niveau. » Mais il a voulu continuer et il s'alignait dans des courses à côté de garçons de 17, 20 ans. Et il gardait cette même fraîcheur. Alors c'est vrai, Pierre l'a rappelé, il y a eu aussi des années sombres. Mais à l'époque, les années 90-2000, il y avait quand même, c'était plus des coureurs cyclistes, c'était toute une bande de chaudières qui se baladaient sur les bords des routes. Et comme les autres, eh bien, il a trempé là-dedans. Mais il avait cette passion du vélo et cette passion a fini par le tuer. Ce que disait Pierre aujourd'hui, c'est vrai que quand tu prends ton vélo, que tu sois coureur cycliste professionnel ou seulement pour te déplacer pour aller au boulot, tu n'es jamais rassuré quand tu es sur ton vélo. La cohabitation, il faut qu'elle se fasse, mais je ne vois pas comment elle va pouvoir se faire. On a l'impression que les vélos exaspèrent de plus en plus les automobilistes ou les camionneurs. Dès qu'ils voient un vélo, les mecs deviennent fous. Mais pas seulement en ville, sur les petites routes de campagne aussi, parce que tu oses prendre la place des bagnoles. C'est complètement dingue. Et ce rapport entre les deux, je ne sais pas comment on va faire un jour pour arranger ça et pour permettre à tout le monde de bénéficier de la route ensemble.
Simon Dutin.
Pierrot l'a rappelé, ce n'est pas parce que c'est un dopé convaincu que sa mort est moins grave. Effectivement, quand on est cycliste, on reste cycliste toute sa vie. Et là où je rejoins Christophe, c'est que je pense que la multiplication de ces accidents ces dernières années, alors d'abord elles sont un petit peu plus médiatisées, je pense qu'à d'autres époques, dans les années 50, 60, où ça arrivait déjà, je pense que c'est effectivement lié à un changement de considération des cyclistes, effectivement, mais que ce soit avec la vision, le respect, l'amour qu'on portait au Tour de France, aux courses cyclistes et l'admiration qu'on portait aux champions cyclistes, jusqu'à effectivement les rapports entre les désormais conducteurs de voitures et cyclistes. Je pense qu'il y a un respect qui a disparu, il y a une exaspération dans un monde où il faut que tout aille vite, où on est toujours pressé, on est toujours à la bourre, et effectivement face à un mouvement qui tend à développer les déplacements un peu plus verts et les déplacements cyclistes, il y a une partie de certains automobilistes qui en a un peu ras-le-bol, qui a l'impression que les cyclistes donnent des fonds à la terre entière. Mais il n'y a qu'à voir comment tu te fais insulter parfois dans Paris quand tu traverses une rue et que tu as un cycliste qui arrive pourtant en sens unique et qui te traite de connard parce que tu as failli le faire trébucher.
Mérité.
Mérité ou pas, j'en sais rien, mais il y a effectivement, je pense, un décalage entre les risques que prennent les cyclistes et la façon dont ceux qui partagent la route avec eux les voient. Et le grand problème du cyclisme, on l'a rappelé, c'est que tu peux pas fermer les routes. Quand tu fermes déjà les routes pour les grandes courses, tu peux pas fermer les routes pour un simple entraînement, malheureusement.
Le drame, David et Rebellin, on en parle dans les grandes gueules du sport ce matin. Sarah Pitkowski.
Je connaissais pas ce coureur. Je vais être très franche avec vous. Et c'est toujours très agréable de... c'est aussi à ça que servent les grandes gueules, hein, de mettre en lumière peut-être des gens, quand on n'est pas spécialiste de cyclisme, de revenir sur des carrières. Malheureusement, c'est lorsqu'il y a des drames comme celui-là, et je ne vais pas en rajouter, mais effectivement, la route, pour l'instant, n'est pas correctement partagée entre les cyclistes et les automobilistes. Et en même temps, tu te rends compte que notre monde est de plus en plus... Enfin, il y a de plus en plus d'incivilités, et je pense que ces incivilités-là, elles se ressentent aussi à partir du moment où on pense qu'on est, on est dans son bon droit. Et en fait, on pense tous qu'on est dans son bon droit à un moment ou un autre. Moi, quand je suis en vélo, je vais le dire franchement, je respecte pas les consignes.
C'est-à-dire
que je me permets de, quand je vois personne, je vois un feu rouge, je me dis, bah, si je suis en vélo, c'est pour gagner du temps. Donc en fait, je vois le feu rouge, je vois personne au carrefour, je passe. Et donc en fait, on a des attitudes qui sont pas respectueuses, et c'est comme ça qu'on s'expose et qu'on expose les autres. Mais comme en plus, on se sent tout permis aujourd'hui et qu'on ne supporte pas qu'on nous impose quelque chose, quand tu vois, parce qu'il y a cet accident, mais ce camionneur, il y a délit de fuite. Il laisse quelqu'un sur le bord de la route. Et c'est dramatique parce que c'est le monde dans lequel on évolue aujourd'hui.
Non, après ça c'est scandaleux de partir sans secourir la personne qu'on a percutée. Après, est-ce que ce genre de choses-là font pas partie intégrante du sport? Le cyclisme, faire du vélo, c'est comme la course automobile. Tu sais que c'est un sport qui est pour moi dangereux parce que ta zone d'entraînement.
Il y a plus de morts en vélo qu'en Formule 1.
Oui, oui, oui. Mais même en entraînement en Formule 1, tu peux faire une sortie de piste. Ça peut être dangereux. L'entraînement de cycliste est dangereux. Ça fait partie.
Oui, mais là, il dépend pas de toi cet accident. Enfin, je veux dire, quand tu t'entraînes en Formule 1 et tu fais des tests, t'es sur un circuit.
Je suis d'accord. Sarah, non mais je parle de sport,
c'était sur le ring. Oui, là le problème c'est qu'ils s'entraînent et qu'ils s'entraînent pas dans des sur conditions.
Oui, mais Sarah, tu deviens cycliste professionnel, tu connais les risques.
Oui, tu connais les risques.
Tu dois t'entraîner. Bah, oui. Tu les connais.
Oui, sinon, tu les connais.
Tu sais que tu partages la route avec des voitures, avec des véhicules, et que c'est pas privatisé pour toi.
Ouais, c'est difficilement entendable.
Ça fait partie intégrante du métier de cycliste professionnel. C'est que c'est un sport qui est dangereux. Même en course officielle, c'est dangereux. Alors que là, les courses, les routes sont fermées, c'est dangereux. Oui. En entraînement, c'est dangereux.
C'est inhérent
parce que
à ton
voitures,
sport.
C'est inhérent à ton sport. Après, bien sûr que c'est dramatique de perdre la vie en pratiquant ton sport, en t'entraînant. Bien sûr que c'est dramatique. Mais moi, je pense que les mecs qui sont cyclistes, ils connaissent les dangers.
Il n'y a pas que les sportifs qui perdent la vie quand ils sont sur leur vélo.
Oui, d'accord. Mais là, le sujet, c'est David et Rébelline. Je ne veux pas parler de Martin qui a un accident. C'est pas ça le sujet. Même si on pense à tous ceux qui ont les accidents de vélo. Là, on parle des sportifs professionnels qui pratiquent leur boulot et leur manière.
Oui, mais c'est la façon de concevoir la route.
Mais tu veux faire quoi, Christophe?
Eh ben, c'est une question d'éducation. Il
est-ce
faut
que
arriver
tu
à
des forme... villes artificielles.
Non. Mais essayer de faire comprendre à la fois aux cyclistes et à la fois aux automobilistes, aux conducteurs de voitures ou de camions, que la route se partage et essayer de leur faire comprendre ça. Et c'est aujourd'hui, quand tu vas passer ton permis de conduire, il devrait y avoir des choses et l'accent mis là-dessus, tu vois, pour les jeunes conducteurs, que tu dois pas passer à moins d'un mètre cinquante d'un vélo quand tu le doubles. Il y a des choses comme ça, il y a des opérations qui sont faites pendant le Tour de France, mais qui ne sont pas assez relayées.
C'est compliqué. Les cyclistes s'entraînent en montagne sur des virages comme ça, il y a un camion qui passe, s'attend pas à voir 5-6 coureurs cyclistes qui. Tu vois, il y a des situations qui sont très complexes. Entre les voitures et les vélos.
Attendez, quand ils sont plus nombreux à s'entraîner, il y a pas il y a les voitures des quand ils font des entraînements collectifs, il y a des voitures devant, derrière,
non. Oui, les professionnels, quand ils sortent en peloton, ils ont de temps en temps une voiture d'assistance pour leur amener les bidons,
qui fait office de protection dans une certaine mesure.
Ah, oui, bien sûr. Qu'il y a une voiture, mais là, pour le coup, David et Rébelline, il était tout seul et il venait d'arrêter sa carrière. Exactement. Voilà, c'était important d'y revenir sur cette l'une des informations de la semaine hors Coupe du Monde. D'ailleurs, j'ai un petit zapping à vous proposer, les copains. On parlera toujours de cyclisme parce qu'il y a une autre information qui n'a rien à voir, mais très importante dans le monde du vélo, le Tour de France 2024 qui va arriver à Nice. On s'en fout pas, un petit zapping et puis à partir de 11h on reparle de la Coupe du Monde avec l'Argentine. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.